Ici Jean-Daniel Messinger qui vous propose le nouveau numéro de Chronique pour la paix sur Radio Shalom, émission bimensuelle parrainée par J-Call et La Paix Maintenant. Nous sommes aujourd'hui avec Marc Nobel pour parler de la conférence sur la lutte contre l'antisémitisme qui se tiendra à Jérusalem le 26 et 27 mars prochain. Bonjour Marc Nobel.
Bonjour.
Marc Nobel est historien et essayiste, spécialiste des phénomènes de racisme, d'antisémitisme et dont le dernier ouvrage paru en 2021 traite de la haine en ligne sur les réseaux. Après une longue carrière dans diverses institutions nationales et internationales, Marc Nobel poursuit toujours ses recherches et maintient son engagement pour dénoncer et comprendre les phénomènes de racisme et de haine. Cette conférence, a priori ouverte à tous, représentants des gouvernements, d'associations, de partis politiques, de chercheurs, universitaires, journalistes, tend à se réduire devant de nombreux désistements, à une rencontre donc de représentants des extrêmes droites de quelques pays d'Europe. Quelles sont les raisons et les buts de cette conférence en réalité ?
Alors, auparavant, la conférence s'intitulait Forum, le Global Forum contre l'antisémitisme, Against Antisemitism en anglais, et aujourd'hui il est intitulé Conférence sur l'antisémitisme, il a lieu à Jérusalem. J'ai assisté plusieurs fois à cette conférence et j'ai même co-dirigé quelques sessions qui portaient sur l'antisémitisme en Europe de l'Ouest. Donc je connais la conférence, je sais comment ça se passe. Je sais aussi que c'est un lieu de rencontre important pour les chercheurs qui travaillent sur l'antisémitisme dans différents pays, y compris différents continents. Donc vous rencontrez des Sud-Américains, des Européens, des Australiens et autres, et vous discutez de ces sujets. Vous rencontrez également des diplomates, des politiques en effet, et c'est l'occasion pour les uns et les autres d'analyser ces phénomènes complexes et de comparer les situations qui prévalent dans chacun de nos pays.
Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire des raisons de cette réunion de représentants de l'extrême droite, en fait?
Alors, jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'était un moment important de rencontre, à la fois solennelle et dans les couloirs, de gens qui s'inquiètent et travaillent sur l'antisémitisme, qui s'inquiètent parce que l'antisémitisme est une réalité, et qui travaillent sur ces sujets avec des représentants de différents partis. Mais nous n'avions pas cette, entre guillemets, originalité, enfin des guillemets, qui consistait à inviter des dirigeants d'extrême droite de différents pays. Alors, de quel pays ? Eh bien, en l'occurrence, des dirigeants d'extrême droite du FPÖ autrichien, du Fidesz en Hongrie, de la Ligue en Italie, de Vox en Espagne, les démocrates, c'est le nom de ce parti en Suède, qui est un parti d'extrême droite dur, il y a même des néo-nazis au sein de ce parti, et des représentants du Rassemblement National, en tout cas son chef, en la personne de Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen, qui a également été invité. Donc voilà une originalité, je mets bien sûr ce mot entre guillemets, qui me paraît totalement aberrante, qui me choque profondément et qui fait qu'on va discuter de l'antisémitisme avec les représentants de l'extrême droite européenne. Mmh. Et ça, c'est une nouveauté. Et si cette nouveauté a lieu, c'est parce que le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, en la personne de M. Shikli, qui est un petit idéologue, a décidé d'inviter ses représentants et ses dirigeants de partis d'extrême droite pour parler de ces sujets on ne peut plus sérieux à Jérusalem.
Ça veut dire que la raison politique transcende les valeurs éthiques ?
D'abord, cela veut dire que le ministre israélien de la diaspora, mais aussi le ministre israélien des Affaires étrangères, s'assaillent sur ce qu'un certain nombre de juifs de diaspora ressentent, leur inquiétude, ou en tout cas leur méfiance légitime à l'égard de l'extrême droite, qui est le fait d'abord d'un vécu, hein, parce que les juifs de diaspora ont supporté l'extrême droite et sa virulence, sa violence antisémite pendant de très nombreuses décennies, si ce n'est même pendant plus d'un siècle. Et les bon nombre de nos compatriotes et en même temps co-religionnaires, donc de Français de confession juive, sont méfiants à l'égard de l'extrême droite. Et on ne leur a rien demandé, on fait fi de leurs sentiments, on s'assoit carrément dessus, et les Israéliens et ce ministre décident d'inviter ces gens comme si de rien n'était. Et cela crée des tensions, vous l'avez dit d'ailleurs, parce qu'il y a un boycott et de nombreux désistements qui ont lieu, mais on sent poindre également des différences d'approche, ne serait-ce qu'avec le CRIF. Le président du CRIF, pas plus tard que hier soir, à l'émission C'est à vous sur France 5, a exprimé son désarroi, son mécontentement, a expliqué pourquoi il se méfiait de l'extrême droite en tant que telle. Et même si les Israéliens ont des intérêts qui sont les leurs, on a l'impression que les Israéliens passent très largement au-dessus de ce que nous ressentons et vivons, ou tout au moins une partie de ce que nos co-religionnaires ressentent et vivent.
Une partie de la communauté juive de France semble penser que le Rassemblement national la défend contre l'antisémitisme.
Non, mais c'est extraordinaire d'entendre des choses pareilles. Vous savez, l'historien Laurent Joly, qui est un très grand historien spécialisé dans l'histoire de Vichy, a eu cette expression que je vais faire mienne. Il a dit « Penser que l'extrême droite pourrait vous protéger est une illusion. » C'est une illusion, voilà. Maintenant, il faut reconnaître néanmoins que le Rassemblement national a évolué sur ces questions, que Marine Le Pen n'est pas son père, qu'elle a en effet coupé avec le Front National sur ces questions par rapport à ce qui existait auparavant. D'ailleurs, elle a viré son propre père en 2015, mais je pense plus pour des raisons de politique interne et pour avoir les coudées franches lorsqu'elle a pris la direction de ce qui allait devenir le RN, plutôt que d'être parasité par Jean-Marie Le Pen, donc son père. C'est vrai donc à ce niveau-là, il y a eu des évolutions. Mais ceci étant, il y a aussi une instrumentalisation de l'antisémitisme. En fait, je vais essayer d'expliquer ça assez rapidement, dans le sens où le RN a besoin, pour arriver au pouvoir, d'une virginité en politique, de se détabouiser. Et quoi de mieux que de dire qu'on n'est pas antisémite ? D'ailleurs, cela est expliqué par Louis Alliot. Lorsqu'il avait été interviewé par ma consoeur Valérie Gounet, qui préparait un livre sur le FN à l'époque, en 2013. Et Louis Alliot, qui était vice-président du FN à l'époque, ce n'était pas encore le RN, expliquait que quand il allait dans les marchés, les gens ne voyaient pas ombrage à ce que le FN parle de l'immigration, des musulmans, ou de je ne sais quel sujet, mais tiquaient quand on parlait de l'antisémitisme. Et donc, par conséquent, il fallait adopter une autre stratégie. Et en effet, ça leur permet de se lifter en tant que tel. Moi, ce que je dis, par rapport à tous mes co-religionnaires qui pensent que le RN pourrait nous défendre, ce que je dis, c'est regardez-y à deux fois. Voilà. Soyez peut-être plus prudents que cela. Et en tout cas, lors d'élections, vous n'avez pas qu'à vous prononcer en fonction ou pas de l'antisémitisme. Et oui ou non d'Israël, quand on est des électeurs et que l'on vote en France, c'est un ensemble de perspectives politiques que l'on regarde. C'est un projet politique, c'est un programme politique. Et je ne considère pas que le programme du RN pourrait suffisamment me tranquilliser pour que je vote pour lui, en vérité. Hein. Donc, il y a dans le programme du Rassemblement national, quelque chose qui est mis en avant, qui s'appelle la préférence nationale, et qui donc suppose des exclusions, un système d'exclusion qui m'inquiète. Mmh. Et donc, ce n'est pas par rapport simplement à l'antisémitisme que l'on doit déterminer ses choix électoraux et ou politiques. Quant à l'antisémitisme, il y aurait des choses encore à dire en ce qui concerne le RN aujourd'hui.
Des actes antisémites sont régulièrement commis en France. Peut-on parler d'une résurgence de l'antisémitisme ou a-t-on simplement affaire à des faits isolés en augmentation ?
Alors, moi, en tant qu'historien, je me bats. Vous savez, c'est pas facile. Hein. Je me bats pour mettre en perspective historique ces sujets. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le travail d'un historien de ne pas partir le mercredi et de remonter jusqu'au dimanche pour arriver au mercredi, hein, pour résumer, essayer de trouver une image. En fait, les événements, les actes antisémites qui ont augmenté en 2023, à partir du mois d'octobre en France, et tout au long de l'année 2024, 1670 actes qui ont été comptabilisés en 2024, ne remontent pas au 7 octobre. Les actes antisémites ont commencé à éclore, à apparaître à partir du mois d'octobre de l'année 2000. Cela fait donc depuis plus de 24 ans que l'antisémitisme perdure dans notre pays. Alors il y a des hauts et des bas. Les actes antisémites, quelquefois, sont plus bas qu'en d'autres années. Quelquefois, ils sont très hauts. Pour vous le faire comprendre, 1670 actes antisémites comptabilisés en 2023, 1974 comptabilisés en 2001. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une nouveauté, en fait. Donc, il faut mettre en perspective ces sujets. Et il faut tenter d'expliquer ce qu'est l'antisémitisme contemporain aujourd'hui, comment il s'exprime, quelles sont ses caractéristiques et pourquoi il s'exprime ainsi. Mais il est vrai que depuis le 7 octobre, évidemment, les choses se sont aggravées.
Donc, il y a un lien direct avec la guerre, en fait.
Il y a, vous savez, là encore, c'est une simplification que de penser que l'antisémitisme ne pourrait avoir comme seule résultante que le conflit israélo-palestinien. Hein. L'antisémitisme fluctue. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, il n'était pas question d'antisémitisme, mais il y avait de l'antisémitisme. Pendant la crise de Covid, on a accusé l'extrême droite, tiens, bah justement, l'extrême droite, un certain nombre de groupuscules d'extrême droite ont accusé les juifs de répandre soit l'épidémie, soit de faire de l'argent avec cette épidémie. C'était en dehors de tout contexte et de toute guerre israélo-palestinienne. Vous voyez, l'antisémitisme fluctue. Et moi, je regarde toujours cette disparité dans l'antisémitisme. Par exemple, si on écoute Mathilde Panot, l'antisémitisme ne proviendrait que de l'extrême droite. Si l'on écoute Marine Le Pen, l'antisémitisme ne proviendrait que des islamistes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Et les uns et les autres veulent instrumentaliser quelque part. Mais il est vrai que néanmoins, les conséquences, la résultante de ces guerres israélo-palestiniennes se fait remarquer en tant que telle. Il est tout à fait clair que quand les choses sont extrêmement difficiles là-bas entre Israéliens et Palestiniens, il y a un conflit, une guerre qui est aussi dure que celle qui a lieu aujourd'hui, cela a des conséquences sur l'antisémitisme dans chacun de nos pays de diaspora, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suède, et que cela aggrave la situation en dehors de toute autre considération.
Ça veut dire qu'on assimile les Juifs, quelque part, on l'assimile à Israël, à l'État.
Alors,
à ce qui se passe en Israël.
Il y a des amalgames.
Comme l'extrême gauche qui développe un peu un antisionisme qui confine à l'antisémitisme.
Il y a des amalgames qui sont faits. Ouais. Mais je rappelle que les Français de confession juive qui vivent en France, c'est-à-dire 0,67% de la population totale de ce pays sur 67 millions d'habitants, eh bien, ces gens-là sont de nationalité française. Ils ne vivent pas en Israël. Le conflit a lieu à 3500 kilomètres de nous, n'est-ce pas ? Et donc, ces gens-là ne font pas l'armée, ne sont pas israéliens, ne votent pas pour les élections israéliennes. Et même s'ils soutiennent l'existence de l'État d'Israël ou de la famille en Israël, ils ne sont nullement responsables des choix de son gouvernement ou des conséquences qui ont lieu en raison de cette guerre et de ces horreurs.
Mais alors, comment on explique quand même cette
Alors, on l'explique par cette facilité que l'on a, y compris d'ailleurs malheureusement à gauche, hein, de vouloir forcément amalgamer les Juifs à des criminels, au fond. Hein. D'abord, de diaboliser l'État d'Israël, tout en ignorant les conflits qui ont lieu ailleurs, entre parenthèses. Bien quand sûr. Vous entendez la France insoumise nous parler à longueur de journées de génocide en utilisant ce terme, tout en feignant d'ignorer les conflits qui ont lieu ailleurs, ne serait-ce que la guerre terrible qui a lieu au Congo, pas au Congo, mais en Afrique centrale et ailleurs. Hein. Les 377 000 morts de la guerre qui a eu lieu au Yémen, la guerre qui a eu lieu civile, qui a eu lieu en Libye, les presque 500 000 morts qui ont eu lieu en Syrie. Enfin, tout ça est absolument incroyable, n'est-ce pas? Donc, il y a une focalisation sur Israël, aussi parce que c'est l'État juif, et parce qu'ordinairement, on aime bien se focaliser sur les Juifs.
Oui, on aime bien, mais quelle est la raison profonde de cette focalisation?
Alors, la raison profonde, c'est qu'en vérité, ces gens-là n'ont de cesse que de vouloir la disparition de l'État d'Israël. Et ils nous rendent collectivement responsables d'une situation dont nous ne sommes pas responsables. Mmh. Vous savez, on peut aimer et Israël et le soutenir, et être opposé à la politique politiques qui s'y déroulent, qui sont mises en place, en tout cas par le gouvernement actuel ou d'autres précédemment, avoir sa propre opinion. Moi, j'ai une expression qui est très simple. Je dis toujours, je ne suis pas une brebis qui appartient à un troupeau. Mmh. Ce n'est pas parce que les autres bêlent en chœur que je dois bêler avec eux. J'ai le droit d'avoir un regard critique et d'avoir un esprit critique en tant que tel sur ce qui est fait en Israël. Ça ne fait pas de moi un mauvais juif, ça fait de moi un juif peut-être critique à certains moments, qui se pose des questions, qui est inquiet. Mmh. Qui est inquiet parce que la politique qui est menée aujourd'hui, je la trouve dangereuse, et qui veut exprimer une opinion politique par rapport à ce qui se passe en Israël. Je suis un inconditionnel de l'existence de l'État d'Israël, mais pas forcément de sa politique.
Bien sûr. Une dernière question pour terminer cette interview. On parle de lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que ça peut se résoudre au fond dans le cadre d'une lutte?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous avions des recettes miracles pour combattre durablement l'antisémitisme, nous les aurions appliquées. C'est-à-dire que j'ouvrirais ma manche, je vous dirais, ben voilà, il suffit d'eux. Mmh. En fait, non. Par contre, il doit y avoir une réponse holistique, je m'explique. C'est-à-dire, si on veut lutter contre l'antisémitisme, il ne suffit pas simplement de protéger les synagogues. Il faut également éduquer les enfants. Pour éduquer les enfants et lutter contre l'antisémitisme dans les écoles, il faut former les professeurs. Il faut également faire en sorte que les politiques se calment à certains moments et arrêtent d'instrumentaliser ces questions-là, comme ils le font aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Mmh. Il faut aussi qu'il y ait une synergie, une sorte de sensibilité par rapport à ces questions, et il faut bien mettre en place différents segments et différentes réflexions et outils de base pour lutter contre l'antisémitisme. L'antisémitisme évolue. Moi, j'ai une théorie, la théorie des 3 A. Il s'appuie sur une ancienneté, c'est le premier A. Il s'actualise, comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure. Il y a la crise économique de 2008, il y a le Covid, il y a le conflit israélo-palestinien, et à chaque fois, l'antisémitisme s'actualise. Mais il est aussi attractif, c'est le troisième A. Et lutter contre cette attractivité demande une synergie commune, et pas simplement de s'occuper d'un point unique, mais de s'occuper de plusieurs points, d'avoir une réflexion commune qui tienne compte à la fois des problèmes de sécurité, qui tente à rassurer nos compatriotes, qui tente à calmer certains politiques qui sont excessifs dans leur langage, excessifs dans leur manière de se comporter et de dire ce conflit. Et évidemment, l'éducation a un rôle fort à jouer. Et j'en passe parce que le temps nous manque, oui, mais cette vision holistique est très importante. L'antisémitisme, par ailleurs, n'est pas simplement l'affaire des Juifs. Les Juifs en souffrent, ils n'en sont pas responsables. L'antisémitisme, avant tout, menace les valeurs de la République. Quand on comprendra qu'il menace les valeurs de la République, on le comprendra mieux, on le combattra mieux, parce qu'on ne situera pas simplement l'antisémitisme comme une seule menace pour les Juifs en tant que tels, nos compatriotes de confession juive en France.
D'accord. Merci Marc Nobel.
Merci
et
à vous. Merci
gardons
beaucoup.
Espoir pour des solutions prochaines de tolérance, de partage et de paix.
Merci à vous.
Merci.